Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Conseil d'État va-t-il contraindre le gouvernement à réduire davantage ses émissions de CO2 ? Il donnera sa réponse ce matin, après un recours déposé par l'ancien maire de Grande-Synthe, par des associations également. Tous accusent l'État d'inaction climatique.
La responsabilité doit aussi porter sur les puissances privées. C'est ainsi que Bruno Le Maire demande aux grands distributeurs de reporter le Black Friday, vous l'entendrez.
Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur le contenu de la proposition de loi sur la sécurité globale. Elle s'attache à augmenter les compétences des policiers municipaux.
Nous comprendrons pourquoi le budget européen pourrait rester bloqué très longtemps. Un sommet est prévu aujourd'hui.
Et puis nous irons dans le Haut-Karabakh avant que les territoires arméniens ne passent sous la coupe de l'Azerbaïdjan. Notre envoyé spécial a vécu les dernières prières d'une communauté. Joe Biden constitue en ce moment ses équipes avant son entrée à la Maison-Blanche prévue en janvier. Mais comment bien s'entourer quand on est président ? Frédéric Saïs lui donnera ses conseils dans son billet politique à 8h16. Diminuer de 40% les émissions françaises de gaz à effet de serre d'ici 10 ans, en 2030. L'objectif est public en France. Il est inscrit dans des textes législatifs, mais il ne serait pas pour autant contraignant. C'est pour rendre cet objectif obligatoire que le maire de Grande-Synthe, aujourd'hui député européen Europe Écologie Les Verts, que Damien Carême donc poursuit l'État en justice avec d'autres associations. Grande-Synthe, précisons-le, est une commune du Nord exposée à des risques de submersion à cause du réchauffement climatique. La réponse du Conseil d'État est attendue à 9h30 tout à l'heure. Une décision qui pourrait être historique en matière de justice climatique, Véronique Roberotte.
Y a-t-il carence fautive de l'État français ? Les conclusions présentées par le rapporteur public le 9 novembre dernier dans le contentieux opposant la commune de Grande-Synthe à l'État pour inaction climatique le laissent en tout cas penser. Guillaume Anotin, avocat des requérants au Conseil d'État.
L'État va se voir contraint de justifier à la barre du Conseil d'État de la cohérence des trajectoires qu'il a décidé avec les objectifs qu'il a souscrits dans le cadre de l'accord de Paris. Et l'État va devoir rendre des comptes. Jusqu'à présent, on n'était pas du tout sur cette ligne-là, puisque les juristes considéraient que les lois dites de programmation, dans lesquelles il y avait des objectifs, n'étaient pas obligatoires pour l'État. Et que donc, ces lois pouvaient être prises un petit peu pour la galerie, si vous voulez. Elles pouvaient être prises pour des raisons électorales. Et donc, la décision du Conseil d'État que nous attendons, elle va restaurer de force le crédit qu'on peut accorder à la parole publique, puisque la parole publique, qui est très forte sur les questions de réchauffement climatique, mais qui est une parole politique, qui est une parole de promesse, qui est une parole de rendez-vous, va devoir devenir une parole d'action et d'engagement.
Et la France accuse un certain retard dans son action climatique, estime Célia Gauthier de la Fondation Nicolas Hulot. Les trajectoires deviennent de moins en moins réalistes.
À partir de 2025, il va falloir tripler le rythme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour tenir les objectifs climatiques. Or, à ce stade, l'État ne nous a pas dit comment il allait réussir à tripler le rythme de baisse d'émissions.
Aux Pays-Bas, pareille procédure a débouché sur l'obligation de l'État de réduire de façon urgente et significative les émissions de gaz à effet de serre du pays.
Véronique Roberotte, avant donc cette décision attendue du Conseil d'État à 9h30 ce matin, sachez qu'au Japon, pour accroître la pression sur le gouvernement, les parlementaires ont déclaré tôt ce matin l'urgence climatique dans leur pays, comme avait pu le faire l'Union européenne il y a un an. Sachez aussi que l'Organisation maritime internationale adopte de nouvelles règles qui visent à réduire la pollution causée cette fois par les navires, des mesures qui ne sont là encore pas coercitives. Le ministre de l'économie veut montrer qu'il agit face à la crise liée au double confinement. Vous l'entendiez hier ici même, les commerçants demandent la réouverture de leurs magasins dès la fin de semaine prochaine, le 27 novembre, date d'une grande braderie commerciale, le Black Friday. Eh bien, Bruno Le Maire demande formellement aux gros distributeurs de reporter cette opération. C'était hier lors d'une séance de gouvernement, de questions au gouvernement au Sénat.
La responsabilité, ça ne peut pas être uniquement pour la puissance publique et pas pour la puissance privée. C'est pour tout le monde, tout le temps, surtout en période de crise. Et donc je voudrais appeler tous les acteurs économiques, que ce soit la grande distribution, que ce soit les acteurs du commerce digital, au sens des responsabilités, en leur posant cette simple question. Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday ? Ma réponse est non. Et j'espère qu'ils le comprendront eux aussi. J'aurai l'occasion de leur en parler pour leur demander de faire preuve de sens des responsabilités et examiner toutes les possibilités de décaler cette opération qui n'a pas de sens dans les circonstances actuelles.
Bruno Le Maire, donc hier devant le Sénat, Bruno Le Maire qui n'a pas forcément convaincu les petits commerçants et les associations, notamment UFC Que Choisir. C'est l'art de s'occuper de choses sur lesquelles il ne peut rien plutôt que de régler le problème de fond que constitue ce Black Friday qui n'est pas du tout encadré. Voilà ce que dit ce matin le président de l'UFC Que Choisir. Le Conseil français du culte musulman va créer un Conseil national des imams à la demande d'Emmanuel Macron. Il sera chargé de labelliser en quelque sorte les imams en France. Les dirigeants du CFCM en ont présenté les grandes lignes hier soir à l'Élysée. Le chef de l'État leur a également demandé de rédiger maintenant une charte des valeurs républicaines d'ici 15 jours. Ils devront ensuite s'engager sur ce texte. J'y suis favorable politiquement, mais que honorait-on dit si l'on l'avait imposé? Voici l'argument du ministre de l'Intérieur qui refuse l'hypothèse d'un armement obligatoire des policiers municipaux. Gérald Darmanin était jusque tard hier soir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour discuter de la proposition de loi sur la sécurité globale. Pas d'armement obligatoire chez les policiers municipaux donc. Au total, il y a 32 articles, plus d'un millier d'amendements. On a beaucoup parlé jusque-là de l'article 24 qui veut encadrer la diffusion malveillante des images qui permettent d'identifier des policiers ou des gendarmes. Mais le texte prévoit aussi d'élargir les compétences des polices municipales, Pierre Neveu.
Le texte ouvre plus largement les champs d'intervention des polices municipales en leur donnant par exemple la possibilité de contrôler les permis de conduire et assurances, d'avoir accès aux fichiers des véhicules volés, comme ils seront habilités à intervenir dans les squats de halls d'immeubles ou pour une occupation illégale de terrain communal. En prévision de l'organisation de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, le texte prévoit de mieux encadrer les entreprises de sécurité privées et leurs agents qui seront amenés à réaliser des missions de surveillance sur la voie publique. Leur activité sera plus strictement encadrée. Le secteur emploie aujourd'hui 170 000 personnes. C'est plus que la police nationale et ses 150 000 fonctionnaires. Par ailleurs, le texte modifie le cadre juridique des caméras individuelles qui équipent les policiers et gendarmes. Ils pourront transmettre leurs images en temps réel si leur sécurité est menacée. Quant aux drones, ils pourront être utilisés pour établir l'ordre lors de manifestations lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public.
Pierre Neveu pour France Culture. Le syndicat CFE-CGC de Renault annonce ce matin qu'il signera l'accord sur des suppressions de postes. 2500 au total dans l'ingénierie et les fonctions tertiaires du groupe Renault en France. Cela se fera via des départs volontaires. Cette signature rend valide le texte déjà approuvé par Force Ouvrière. Les 2100 suppressions de postes prévues dans les usines françaises, cette fois, restent encore à négocier. Chez Vallourec, on parle de 350 suppressions d'emplois sur le territoire. Le producteur de tubes sans soudure en acier veut ainsi booster sa productivité face à la baisse des commandes de ses clients pétroliers. Vallourec fermera donc totalement l'usine normande de Déville-lès-Rouen. Un coup très dur pour la commune et pour le département de Seine-Maritime.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un sommet européen est prévu ce jeudi.
Oui, il devait normalement être consacré à la réponse européenne face à la pandémie de Covid-19. Ce sera le cas, mais pas seulement. Car le budget européen pour les années à venir est bloqué depuis lundi par la Hongrie et la Pologne. Idem pour le plan de relance européen conditionné au respect de l'état de droit. C'est bien cette condition que rejettent Budapest et Varsovie. La Slovénie les soutient également. La visioconférence aujourd'hui sera donc assez compliquée, Éric Biegala.
Les choses ne se débloqueront sans doute pas à l'occasion de ce Conseil européen. Une visioconférence de 2 à 3 heures entre les 27 chefs d'État ou de gouvernement, prévient-on de sources élyséennes. Bien plutôt, ce Conseil sera l'occasion de mettre sur la table les positions des uns et des autres, notamment bien sûr des deux réfractaires, la Pologne et la Hongrie, peut-être aussi la Slovénie, dont le Premier ministre hier faisait mine de vouloir camper sur la position des deux premiers. Hors de question, en tout cas pour la France, et d'ailleurs pour la plupart des autres pays de l'Union, de revenir même en partie sur les termes du nouveau règlement qui conditionne l'octroi de lignes budgétaires européennes au respect par les pays de l'Union d'un état de droit chez eux, garantissant notamment l'indépendance de la justice si malmenée en Pologne ou en Hongrie ces dernières années. Malgré ces rodomontades, on remarque aussi, dit-on encore du côté français, que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ne remet pas en cause le principe même de ces budgets conditionnés. Simplement, il aimerait disposer de recours juridiques au cas où son pays serait mis en cause. Ceci sera clarifié et les recours en Cour européenne de justice sont d'ores et déjà prévus, indique-t-on encore côté français, où l'on fait aussi valoir qu'un blocage persistant des deux pays sur le budget européen finirait par se retourner contre eux. Le cas échéant, dès le 1er janvier, ce sont des lignes budgétaires minimales qui seraient seraient alloués. Les fonds structurels, par exemple, ne seraient plus versés. Et Pologne ou Hongrie en sont les principaux bénéficiaires.
Aux portes de l'Europe maintenant, le Premier ministre arménien a dévoilé hier un plan d'action sur 6 mois qui vise à assurer la stabilité démocratique de son pays. Le gouvernement de Nikol Pachinian traverse une période de crise. Il est toujours vivement critiqué pour sa gestion du conflit dans le Haut-Karabakh. Car c'est le cessez-le-feu qu'il a accepté de signer il y a 10 jours qui stipule bien que c'est l'Azerbaïdjan qui sort vainqueur de ce conflit dans le Haut-Karabakh face à l'Arménie. D'ailleurs, à partir de demain, la plupart des territoires auparavant contrôlés par les forces régionales arméniennes vont être cédés un à un à l'Azerbaïdjan. Il y aura notamment la région stratégique du corridor de Latchine. Bastien Bory y a suivi la petite fille d'une survivante du génocide arménien et avec elle les dernières prières et inquiétudes de la communauté.
Dans ces gorges battues par les vents serpente l'unique voie menant à l'église Saint-Mina, à 2000 mètres d'altitude. Là-haut, au bout des chemins de terre du village de Hak, apparaît une paroisse du XIIIe siècle.
Les femmes du village n'avaient pas vraiment d'endroit où se réunir. Alors, elles venaient ici avec leurs enfants pour discuter. Ce n'était pas seulement un endroit où l'on priait le dimanche. C'était un lieu de vie central de cette communauté.
Virginia Davis est sur le sol de ses ancêtres. Sa grand-mère a survécu aux marges de la mort du génocide de 1915. 100 ans plus tard, la petite fille a financé la restauration de cet édifice. Mais demain, ces pierres brunes seront en territoire azéri.
Cette retraite est temporaire. Nous retournerons sur nos terres.
Personne ici ne croit aux paroles du prêtre. Virginia Davis redoute que l'histoire ne se répète.
Ils ont déjà détruit nos églises. Ils ont même transformé la basilique Sainte-Sophie en mosquée.
Une crainte partagée par Rafi Doudaklian, qui a supervisé la restauration.
Vous ne trouverez plus rien d'arménien dans les villages qui nous appartenaient et qui sont devenus azéris.
Dans ce village, la plupart des foyers ont déjà été détruits et abandonnés.
Ma grand-mère était une force de la nature avec tout ce qu'elle a enduré. Si elle était encore là, elle me dirait de retourner dans cette église malgré les guerres pour montrer que nous avons toujours la foi.
Comme l'église Saint-Mina, plusieurs milliers de sites et monuments arméniens passeront sous contrôle azéri. Même si Bakou promet de les protéger, beaucoup ici exigent que l'ONU soit associée à leur préservation.
C'était Bastien Bory dans le Haut-Karabakh pour France Culture. C'est une arrestation attendue depuis 46 ans qui a eu lieu hier. En 1974, deux bombes explosaient dans des pubs à Birmingham, au Royaume-Uni. 21 personnes étaient mortes. Un attentat signé par l'armée républicaine irlandaise. Des hommes avaient été accusés, incarcérés à tort. Le film Au nom du père racontait leur combat face à une administration aux besoins de vengeance. Eh bien, hier donc, un homme de 65 ans a été interpellé dans cette affaire à Belfast, en Irlande du Nord, 46 ans après les faits. Terminons ce journal par un festival qui, oui, réussit à se tenir en ce moment malgré la fermeture des cinémas. Le festival de court-métrage Format Court a lieu en ce moment après un report au printemps dernier. C'est la deuxième édition, il y a 25 films en compétition et un jury qui joue le jeu avec enthousiasme, Anne Lamotte.
J'ai tout de suite dit oui, lance Benjamin Reiner, membre du jury professionnel de ce festival Format Court. Le réalisateur, deux fois récompensé au César, meilleur film d'animation, est épaté par l'éclectisme, la qualité des courts-métrages proposés, la dose d'émotion nécessaire, dit-il.
Moi, avec ma copine, quand on regarde des films aujourd'hui, à chaque fois qu'on voit des gens qui s'embrassent, on se met à hurler, on dit ah non, Covid, comme ça. Et du coup, de tout à coup, revoir un peu la vie aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de... Enfin, la vie, de revoir un peu des habitudes de vie qui vont certainement peut-être être un petit peu modifiées ou des choses comme ça, mais de pouvoir voyager aussi, moi ça m'a vraiment fait un bol d'air frais très très bienvenu quoi.
Benjamin Reiner qui avoue, il a pleuré devant Homesick du français Koya Kamura, une fiction tournée en partie à Fukushima. C'est Désiré, un documentaire animé signé Héloïse Guimard, qui a plus retenu l'attention d'Alexis Mananti, autre membre du jury. Le comédien César du meilleur espoir masculin cette année pour son rôle dans Les Misérables a débuté par le format court avec le collectif Courtrage-mé.
On peut dire que je suis né dans un court-métrage.
Et il en fera toujours, promet-il, car le court, c'est la liberté.
Parce que souvent, c'est la première expression d'un cinéaste. Il y a plus de risques et puis souvent, quand c'est moins expérimenté, bah, peut-être on se prend moins au sérieux et du coup, on a moins peur de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. Il y a moins de responsabilité pour tout le monde. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est différente.
Une énergie disponible gratuitement sur votre écran jusqu'à dimanche, avant un jour de retrouver le chemin des salles.
festival format court quand le cinéma court-circuite le Covid. C'est aussi un article détaillé à retrouver en une de notre site internet franceculture.fr ce matin. Notez d'ailleurs que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sera dans le studio de France Culture à partir de 18h15 ce soir, invitée d'Emmanuel Laurentin dans le temps du débat. Les averses traversent le pays d'ouest en est aujourd'hui, des Pyrénées à l'Alsace ce matin, laissant derrière elles un beau soleil et des températures toujours agréables, entre 8 et 11 degrés ce matin sur la moitié nord du pays, 10 à 17 au sud, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal. Et puis il y a une personne qui s'est faufilée dans ce studio avec une casaque violette. Mais c'est Sandrine Trainer, la directrice de France Culture. Bonjour Sandrine.
Vous exagérez, bonjour Guillaume.
Pourquoi êtes-vous là? Racontez-nous.
J'adore quand ça commence comme ça. Il y a un instant, Guillaume.
J'ai pas fait l'acteur studio. Hein j'ai pas fait l'acteur studio, donc j'essaye.
D'accord, hein, moi non
plus. Je tente
plus,
des trucs.
Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je résiste pas au plaisir de m'adresser à vous toutes et tous qui nous écoutez. Vous savez, une fois tous les deux mois, parfois tous les trois mois, c'est le moment des résultats de la radio. Et voilà, il n'y a pas que ça qui compte, mais il y a aussi ça qui compte pour un service public, de savoir comment vous, le public, réagissez à ce que nous vous proposons. Et voilà, France Culture, en cette rentrée, avec sa nouvelle grille de radio et ses nouvelles propositions numériques, du reste, bat tous les records en cette rentrée avec 3 points d'audience dans notre jargon. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que vous êtes plus +1 600 000 auditeurs, auditrices à nous écouter chaque jour. Ça veut dire que vous n'avez jamais été aussi nombreux et qu'on est extrêmement heureux de vous savoir là à l'écoute. Vous savez que dans ces temps de pandémie, nous sommes là, nous prenons l'antenne tous les jours, les journalistes, les producteurs, les productrices, les techniciens, les réalisateurs et puis tous les gens autour d'eux qui sont là pour que cette radio puisse opérer ce service public à nul autre pareil, exceptionnel, aussi bien je crois en France qu'en Europe. Ils sont là tous les jours en direct, c'est comme ça que nous tenons cette antenne en ces temps de pandémie, et vous êtes là, on se parle les uns et les autres en direct, et ces 3 points d'audience, il me semble que c'est une prime donnée à ce lien de confiance que nous tissons ensemble, c'est une prime donnée au temps des mots, au temps de l'imaginaire, au temps de débattre au fond les idées, autant du savoir, autant des savoirs. Donc voilà, une radio culturelle, un média entièrement culturel qui continue à conquérir de plus en plus d'écoute. Je crois que, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des équipes que je félicite chaudement, mais c'est aussi une excellente nouvelle pour la société tout entière. C'est en tant que tel un fait de société.
Merci beaucoup Sandrine, on va fêter ça d'ailleurs. Clara Lecoq-Réal a déjà mis son t-shirt à paillettes. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Elle publie Entre toutes les femmes, 10 rencontres exceptionnelles aux éditions Grasset. Dans 30 minutes, vous retrouverez nos camarades Hervé Gardel, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte. Et puis un billet politique avec vous Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Rien de plus difficile pour un responsable politique que de recruter ses proches collaborateurs. Rien de plus instructif que d'observer le résultat.
Bon, on demandera à Marlène Schiappa ce qu'elle en pense.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Confinée avec Simone de Beauvoir.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
La femme mariée est-elle devenue libre ? Comment Simone de Beauvoir a-t-elle influencé le travail de ses amis philosophes et réciproquement ? Y a-t-il un destin biologique du corps féminin ? Et enfin, de l'amour nécessaire pour Sartre aux multiples amours contingentes, comment concilier travail intellectuel et passion du cœur ?
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
8h19, la suite des matins. Le billet politique, Frédéric Saïs, parmi les talents d'un responsable politique, savoir s'entourer.
C'est l'une des occupations de Joe Biden d'ici à son entrée à la Maison Blanche, recruter ses futurs collaborateurs, disposer d'une équipe carrée pour l'accompagner dans le bureau ovale. Le journal en ligne américain Politico nous informe que ses premiers choix sont désormais connus. Il a nommé de vieux compagnons de route, Ron Klain, Mac Donilon, Steve Ricchetti, pour occuper les postes clés de la présidence. Cette phase politique, celle de choisir son équipe, est moins spectaculaire, c'est vrai, qu'une campagne, mais elle n'en est pas moins signifiante. Intéressons-nous donc à cela ce matin. Sélectionner son entourage, c'est disposer du pouvoir. Dit comme ça, ça semble une évidence. Et pourtant, il n'est pas rare que des ministres doivent abandonner cette prérogative, l'abandonner à l'étage du dessus, à l'Élysée, qui veille jalousement parfois à ce que ses ministres ne soient pas trop autonomes. Un exemple de cette mainmise, écoutez, cela date de 2014, c'est un extrait du documentaire Un temps de président d'Yves Geland. Le réalisateur a eu accès aux coulisses de l'Élysée. Je vous donne le contexte de l'extrait que vous allez entendre. Nous sommes juste après un remaniement à l'Élysée et le plus proche collaborateur de François Hollande, il s'appelle Jean-Pierre Jouyet, passe alors un coup de téléphone au nouveau ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron. Et écoutez la seule demande que fait Jean-Pierre Jouyet au tout jeune ministre.
Bon, ça va être bien. C'est quand même exaltant, cet âge-là, d'avoir en charge l'économie, les entreprises, l'industrie, tout ça.
Le numérique.
Bon, allez, bon courage. T'as bien eu mon SMS sur la direction du cabinet, hein. C'est la seule chose auquel je tiens entre nous.
Et là, silence, on n'entend pas ce que répond le ministre Macron à l'autre bout du fil, mais on voit son interlocuteur qui grimace. On comprend très vite que la réponse est non, que Macron veut choisir lui-même son équipe jusqu'à cette petite réprimande.
Comme on est là, donc moi tu connais mon côté républicain sur ces choses-là. Oui.
Il faut toujours se souvenir comment on est là, lui rappelle Jean-Pierre Jouyet. Autrement dit, n'oublie pas qui t'a nommé. Dans cet acte de désobéissance fondateur, dès les premiers jours, il y avait en germe la possibilité de la future émancipation, de la trahison d'Emmanuel Macron envers le camp de François Hollande. Voilà donc pourquoi les recrutements dans les cabinets sont moins anodins, moins ennuyeux qu'on ne le croit. D'ailleurs, une fois qu'Emmanuel Macron est devenu président, devinez quoi ? Il a lui aussi cherché à imposer ses proches dans les ministères. Il a ainsi proposé Nicolas Revel comme directeur de cabinet à Édouard Philippe, qui a refusé. Il a reproposé ce nom à Jean Castex, qu'il a lui accepté. Dans son récent livre, Arnaud Montebourg, lui, évoque ce casse-tête, celui de constituer son entourage au sein d'un ministère. Il faut des recrues à la fois très fiables, fidèles, mais aussi compétentes, bien sûr, agiles dans les codes de l'écosystème ministériel. Pas si simple, l'ancien ministre du redressement productif surnommait son équipe les Mohicans et s'inquiétait de voir les énarques de Bercy noyauter sa parcelle de pouvoir. Cécile Duflot raconte qu'elle a rencontré un problème voisin, issu d'Europe Écologie Les Verts, devenu ministre de François Hollande. Elle a peiné à trouver des profils de hauts fonctionnaires munis de tous les diplômes et sensibles aux enjeux écologiques. Ou comment trouver le bon équilibre entre les militants et les technocrates, pour le dire vite, entre l'imagination et la compétence, entre la créativité et la précision, entre le monde tel qu'il devrait être et le monde tel qu'il est. Les partis non habitués au pouvoir butent souvent sur ces questions de ressources humaines. À Perpignan, Louis Alliot, le maire Rassemblement National, a dû aller piocher son directeur de cabinet dans le camp socialiste.
Et la composition des cabinets ministériels permet aussi d'envoyer des messages politiques.
Oui, sous la présidence Macron, un nouveau poste de conseiller a été créé dans les ministères, le poste de conseiller chargé d'assurer le suivi et l'exécution des réformes, autrement dit, de vérifier que les décisions du gouvernement ont un impact concret sur la vie des citoyens, une fonction créée après le mouvement des Gilets jaunes et pour colmater tant bien que mal la brèche ouverte pour répondre aux procès en déconnexion qui fut intenté aux dirigeants. Voilà donc toutes les raisons pour lesquelles il faut guetter ces mouvements d'équipe, parfois plus instructifs qu'un discours ou qu'un communiqué de presse. Une prise de recul toujours utile au moment où les campagnes électorales sont très personnifiées, très centrées sur un seul